12 degrés sud. Itinéraire voyageur, forcément voyeur, entre Europe et océan Indien.
Là, on est vers la boulevard Salakand, vers le port, à Moutsamoudou.
Moustali, guide et chauffeur de taxi à Anjouan.
Moi, ça me plaît beaucoup de vivre dans une île parce que dans l'île, il n'y a pas beaucoup d'industries, il n'y a pas beaucoup d'embouteillages de voitures. Ce que je peux vous dire maintenant, le plus grand problème qui est ici, on déforeste beaucoup la forêt. Beaucoup et beaucoup. Ça, j'aimerais bien lancer un appel à tout le monde, à celui qui peut attendre ce message, de ne plus couper les arbres. Parce que si c'était coupé avant, on ne pourra pas vivre maintenant. Il y a de belles endroits à voir, il y a de belles vallées. En plus, avant, on dirait que Anjouan est le perle de Comores. Parce que Anjouan est la plus belle île des Comores. Il y en a tout ici à Anjouan.
Les Comores ont été découvertes par les navigateurs portugais.
Louis Nizet, conseiller technique du collectif du patrimoine des Comores.
Mais ça, c'est la découverte officielle. Mais les Comores existaient avant cela. Oui. Il y avait des populations à Grotte Comore, à Mayotte, etc. Donc il y a des fouilles archéologiques qui ont prouvé qu'il y avait des populations comoriennes qui avaient déjà des relations avec l'Afrique de l'Est, avec Madagascar, etc. Bien avant, on parle du 11e, 12e siècle, etc. Le palais
de Loujoumbé est l'ancienne demeure des sultans au centre de la Médina.
Il est mentionné par les anciens navigateurs qui ont fait escale à Anjouan. Je ne suis pas historien, mais ça doit dater de 1600, 1700. On trouve déjà mention du palais du sultan. Voilà. Donc on pense que c'est celui-ci. Et après, vers les années 1800, là, on a des textes qui précisent le fonctionnement du palais.
Le palais Oujoumbé était très grand. Il se prolongeait là derrière. Il faisait un énorme rectangle avec toutes les boutiques, là, vous voyez, qui ont été construites par la suite. Tout ça était le palais. Et les anciens qui ont visité, ils ont mentionné que le harem se trouvait dans cette partie-là. D'accord ? Parce qu'il y avait les esclaves, les harems, etc. Il y avait du monde, hein ? Bon, voilà. Mais toute cette partie-là s'est effondrée. Et maintenant, il ne reste que cette partie-ci du monument.
Je m'appelle Jean-Francis Delacour et je viens de l'association Chantier Histoire et Architecture Médiévale. Elle a pour but de faire des chantiers à travers des chantiers de jeunes, de sauver le patrimoine bâti ancien. On apprend que des peuples ont bâti depuis des millénaires, des peuples africains ou avec des influences soit arabes, soit africaines, ont bâti et savaient avoir une civilisation raffinée. On voyait les plafonds, les bois, même les matériaux, il y a du génie là-dedans. Et donc ça, c'est incroyable de voir que ces cités existent et qu'il faut protéger. Le palais est un symbole emblématique de l'ensemble en fait architectural qu'il y a autour du palais, qui est toute la Médina, et qui, elle, est en cours de destruction massive. Il faut absolument, là c'est un cri d'alarme, il faut absolument arrêter la destruction de tout cet ensemble qui est exceptionnel et qui appartient à l'humanité entière. Et c'est l'héritage des ancêtres qu'il faut préserver. Je cultive la terre de mes ancêtres qui appartient à mes enfants. Voilà.
DJ, ouvrier sur le chantier de rénovation du palais de Loujoumbé de Moutsamoudou.
Moi, ma spécialité, c'est le changement des poutres. J'ai bien appris ça, je le fais facilement. Mais là, maintenant, j'ai fini en bas et là, on m'a envoyé dans un autre stage. Je construis les pierres avec de la chaux. On est en train de construire les murs qui se sont effondrés. Donc, on essaie de faire petit à petit, en évoluant tout doucement, quoi. Et c'est un chantier, enfin c'était avant une maison des sultanes. Je crois que j'étais même pas né. Donc j'ai eu la chance de venir travailler. Je découvre plein de trucs. J'ai même eu la chance de voir la baignoire du sultan. C'est pas tout le monde qui l'a vu. Donc on espère vraiment qu'on y arrivera à le restaurer comme il faut. En attendre, peut-être qu'on aura plus de touristes, je sais pas, qui viendront visiter, Voilà, on espère vraiment ça parce que c'est ce qui nous motive à travailler. On espère avoir plein de gens qui vont visiter. Comme ça, peut-être on aura un peu quelques plus, quoi. Je sais pas.
Entrez, entrez, entrez. Il y a moyen de mettre tout le monde là. Bon, alors ici, nous sommes dans la salle de bain du sultan.
Nous sommes dans la salle de bain du sultan. Et le sultan avait une baignoire. Donc la baignoire, elle est là. Vous voyez la baignoire du sultan, là? Vous voyez là? Donc ici, vous avez un revêtement à la chaux lisse qui avait évidemment une certaine étanchéité. Hein. Et là, vous avez un petit trou qui permettait l'arrivée de l'eau froide. Vous voyez le robinet d'eau froide à droite, là? D'accord? Et à gauche, c'était la marmite qui chauffait l'eau. Donc, on a retrouvé la marmite qui était derrière. On va aller la voir. Donc, le sultan avait eau chaude, eau froide. Ça, ce sont les toilettes à la turque, qui fonctionnent toujours. Et vous voyez derrière, là, un espèce de triangle qui servait à rendre une certaine esthétique pour les lieux d'aisance. Et alors, ce triangle-là, j'ai vu exactement le même, pour la même fonctionnalité, dans un palais à Iconi. Ce qui signifie qu'à l'époque, il y avait déjà un certain style, même pour les cabinets. L'objectif, c'est d'avoir le classement officiel au patrimoine mondial de l'humanité. Le sultanat des Comores devrait être inscrit à ce patrimoine. Actuellement, nous sommes inscrits sur la liste indicative. Pour avoir un classement définitif pour le sultanat des Comores, il faut y impliquer d'autres bâtiments. Par exemple, la citadelle de Tizandra, les palais d'Iconi, les tombeaux de Foumbouni en Amoyli, et d'autres bâtiments, à Domoni, et la citadelle, etc. L'Ujumbe est vraiment révélateur de la culture swahili, puisque nous avons un bâtiment qui est très bien décoré, avec énormément de poutres gravées, avec des inscriptions coraniques, mais également toutes sortes de figurines géométriques. Et ces figurines géométriques sont très variées. Ce n'est pas un motif que l'on répète comme ça à l'infini, que l'on retrouve partout. Les artisans de l'époque créer leurs propres motifs géométriques et il y a une variété vraiment importante. Le bâtiment a servi d'école primaire, de bureau pour le chef de canton, pour les cadis, associations, dispensaires, pharmacies, prisons. Il a toujours eu une utilisation officielle. Donc, si vous voulez, nous, ce que nous souhaitons, c'est que le bâtiment conserve cette utilisation officielle, publique, pour le plus grand bien de la population. Donc nous, on a refait un peu la solidité. Vous voyez, on a remis des poutres ici parce que tout ça était effondré. Donc maintenant, c'est bon. Et c'est intéressant, c'est de voir comment ils faisaient les dalles en béton de chaux. Alors, quand on fait des dalles ici, on met des chandelles et puis on met des contreplaqués. Hein, et puis, on met le béton au-dessus des contreplaqués. Le sultan n'avait pas de contreplaqué, par contre, il taillait des rectangles en corail, parce que le corail est léger et se taille facilement. Et il mettait des hadza, il mettait des poutres, et entre deux poutres, il mettait un rectangle de corail, ce qui remplace le contreplaqué actuel. Et une fois qu'il avait fait la partie basse de la dalle, à ce moment-là, il coulait la dalle de chaux. Voilà. Donc, vous voyez le système. Ici, les bois ont disparu, mais on voit bien l'arrangement de la structure de la dalle.
Ça ne risque pas de tomber ?
Si.
Alors,
alors, il vaut mieux sortir.
Ouais. 12 degrés sur un audioblog Arte.